BFM Business, Focus Retail, Noémie Vira.
Bonjour à tous et bienvenue sur BFM Business dans ce nouveau numéro Focus Retail. Le salon de l'agriculture a fait son grand retour après une année blanche pour cause de pandémie. Des agriculteurs inquiets et une menace géopolitique greffée sur la tension des négociations entre industriels de l'agroalimentaire et supermarchés qui déterminent les prix de l'alimentation pour l'année. Des négociations qui se sont achevées cette semaine. Nous en parlerons avec notre journaliste Eva Jaco et notre expert Raphaël Palti, président fondateur d'Altavia. Et si le salon de l'agriculture et la séquence à ne pas rater pour les candidats à la présidentielle, c'est aussi un lieu foisonnant de nouvelles tendances. Place aujourd'hui à ces acteurs de la transition alimentaire. J'aurai le plaisir de recevoir Thierry Blandinière, directeur général du groupe Invivo, et Nicolas Schweitzer, cofondateur de Lavie. Et tout de suite, l'actualité de la semaine par Eva Jaco.
Focus Retail, l'actu de la semaine.
Et on commence ce journal avec les négociations commerciales entre industriels de l'agroalimentaire et supermarchés. Des négociations tendues dans un contexte d'inflation qui ont pris fin mardi soir. Que faut-il retenir, Eva ?
Oui, c'était un résultat très attendu. Depuis mercredi, nous savons que les prix augmenteront dans les rayons des supermarchés. Dès le mois d'avril, l'augmentation négociée entre industriels et distributeurs sera aux alentours de 3% contre 0% l'an dernier. Ces négociations annuelles déterminent les prix des produits commercialisés pendant l'année, mais elles conditionnent aussi une partie des revenus des agriculteurs.
Ce sont des échanges tendus depuis plusieurs mois.
Oui, les distributeurs refusaient de prendre en compte la hausse globale des coûts de production des entreprises alimentaires françaises. Les industriels, eux, demandaient des hausses de l'ordre de 6 à 7%, allant même jusqu'à 10% en raison de l'inflation et de l'envol des prix des matières premières, des emballages et de l'énergie. Cette semaine, la présidente de la FNSEA tirait également la sonnette d'alarme. L'alimentation du bétail augmente de 54%. Il y a une hausse de 8 à 10% de tous les coûts, par exemple, pour les producteurs et les industriels laitiers. Selon Christiane Lambert, c'est l'illustration de la course au moins cher qui tue l'agriculture française.
Et cette loi Egalim 2, adoptée par le gouvernement, vise justement à aider les agriculteurs.
Oui, cette loi oblige les industriels et supermarchés à tenir compte de l'accroissement des coûts de production agricole et à en tenir compte dans le prix final. Mais elle incite aussi les distributeurs à négocier sur tout le reste.
Une inflation qui s'envole avec des prix à la consommation qui ont augmenté de 3,6%.
Oui, avant même la crise Ukraine-Russie, l'accélération de l'inflation a mis le pouvoir d'achat au centre des préoccupations des Français. En février, les prix alimentaires ont augmenté de 1,9% avec une flambée des produits frais. Les augmentations des prix agricoles industriels à la production mesurées dernièrement, entre 15 et 20% sur un an, se répercutent progressivement sur le prix de l'alimentation et des biens manufacturés. L'entrée en guerre de Moscou pourrait aggraver les choses.
Un contexte de guerre qui inquiète la FNSEA et le monde agricole, les matières premières flambent. La fédération craint un risque de pénurie.
Oui, lors du salon de l'agriculture, Christiane Lambert s'est exprimée sur l'impact de la guerre en Ukraine sur l'agriculture française. On le rappelle, l'Ukraine est le 4e exportateur mondial de céréales et la Russie un partenaire commercial important tant sur le secteur agricole qu'énergétique. Ces deux pays représentent à eux seuls près de 30% de la production mondiale de céréales. L'engrais vient majoritairement de Russie. Il a augmenté de 138% l'année dernière et risque de continuer de grimper. Le prix des céréales, lui, augmente. Le blé, le maïs, l'orge et le tournesol qui est majoritairement importé d'Ukraine.
Et la Russie qui est omniprésente sur le marché des matières premières, à quoi faut-il s'attendre ?
Alors, d'abord, une flambée des prix de l'alimentation animale, de certaines matières premières, dont le blé et bien sûr le gaz. Une crainte également sur la disponibilité des engrais. L'Union européenne importe 30% de ces engrais de la Russie.
Et c'était en 2014, la dernière fois que l'agriculture française a connu une telle crise.
Oui, tout à fait. Christiane Lambert craint en effet que le scénario de la Crimée ne se reproduise. La peur que, comme pour l'embargo de la Crimée, aucune compensation ne soit prévue pour le secteur agricole. En 2014, l'agriculture française a perdu près d'1 milliard d'euros. De son côté, Poutine a réussi à développer une agriculture industrielle et a créé une souveraineté alimentaire. Il fournit de nombreux pays en produits agricoles, notamment le Liban ou encore le Maghreb. La France, quant à elle, importe beaucoup plus qu'il y a 10 ans dans des pays au coût de production plus faible, tirant les prix vers le bas et délocalisant la production. Alors, comme le disait Emmanuel Macron lors du salon de l'agriculture, le gouvernement prépare un plan de résilience pour sécuriser les acteurs de l'alimentation française. Merci Eva Jacquot, on vous retrouve la semaine prochaine et tout de suite on va continuer à analyser cette situation avec notre expert.
Focus Retail, l'œil de l'expert.
L'œil de notre expert avec nous sur ce plateau, Raphaël Paltier, bonjour. Vous êtes bonjour. Président fondateur d'Altavia. À l'origine, l'objectif de la loi Egalim était clair, améliorer le revenu des agriculteurs français. Mais peut-on finalement appliquer une loi inflationniste en période de risque majeur d'inflation ?
Alors ça, personne ne le sait réellement, mais ce qui se passe, c'est qu'on est dans une conjoncture bien particulière aujourd'hui, où on subit à la fois l'effet d'une hausse des prix des matières premières et la hausse du prix de l'énergie. Donc au cumul des deux hausses, forcément que les produits deviennent plus chers et que les coûts de production sont plus élevés. Le sujet, le vrai sujet un peu conjoncturel, c'est de faire la juste part des choses entre ce qui est un dû d'augmentation versus les augmentations en amont, mais aussi la volonté de certains acteurs à vouloir en profiter pour réellement augmenter leurs prix par rapport à deux années de pandémie où ils étaient plus ou moins contraints de ne pas augmenter leurs prix. Et c'est pour ça que notamment beaucoup des négociations aujourd'hui finissent en médiation, tout simplement, et le sujet c'est du juste arbitrage entre les deux choses. Incontestablement, ça provoquera de l'inflation sur les produits et incontestablement, on va avoir un nouveau sujet autour du pouvoir d'achat, tout simplement, du client, citoyen, consommateur.
Justement, vous parlez de l'inflation, les prix battent des records sur le marché. Votre groupe est aussi présent en Russie, vous m'avez dit tout à l'heure, est aussi présent en Ukraine. Comment ça se passe sur place? Quelle est la situation et comment vous gérez cette crise?
Alors, on est en gestion de crise, absolument. D'abord, la première chose, moi j'ai une pensée pour tous les collaborateurs qui sont sur place, qui, dans notre cas, nous, sont des collaborateurs autochtones, donc des Ukrainiens d'un côté et des Russes de l'autre. Vis-à-vis de toutes nos équipes ukrainiennes, on a proposé de les exfiltrer à partir de pays limitrophes où nous sommes, type la Pologne, la Bulgarie, etc. Et où nos propres collaborateurs de ces pays sont prêts à aller les chercher, voire les accueillir, les
donc
héberger, etc.
C'est important pour vous d'assurer leur sécurité. Vous les
en
avez
fait, ce qui
évacué.
Se passe, c'est qu'aucun de nos membres de notre équipe ukrainienne ne veut sortir de leur pays, quoi. Et ils veulent résister, etc.
Oui, pour parler qui sont pour l'heure tendus et pas encore de négociations. L'Europe, de son côté, durcit les sanctions avec un but, isoler la Russie. Mais quel impact pour les entreprises françaises sur place? Pour en parler, nous recevons tout de suite Thierry Blandinière, directeur général du groupe InVivo.
Focus Retail, l'interview.
Les entreprises françaises installées en Russie sous pression, au total 500 sont implantées dans le pays, comme la Société Générale, Lactalis, Auchan ou encore Soufflet, champion des céréales, dont vous détenez plusieurs sites de production en Russie et en Ukraine. Thierry Blandinière, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général d'InVivo, un des leaders mondiaux du secteur agricole. Est-ce que vous vous attendez à ce que la Russie réplique face aux sanctions occidentales? Est-ce que cela vous inquiète?
D'abord, on est inquiet pour nos salariés en Ukraine, puisque nous avons 400 salariés aujourd'hui, ukrainiens. Donc les Français étant rentrés depuis jeudi. Et donc on est en contact en permanence avec...
Uniquement les Français, les Ukrainiens?
Les Français. Les Ukrainiens auraient pu rentrer, mais ont préféré rester dans leur pays. On sent vraiment un esprit de résistance qui est en train de se construire autour du peuple ukrainien. Et donc nous, on est solidaires, bien évidemment, de nos salariés. Donc on est en contact tous les jours avec eux. Et tous les jours, on échange un peu sur leurs angoisses. En même temps, ils sont pas à Kiev, donc ils sont plutôt dans les campagnes, donc ils sont assez éloignés du front, quelque part, ou du futur front. Donc ils sont aussi l'inquiétude comme nous, quoi. Donc ils se disent comment tout ça va évoluer. Et donc tous les jours, on dit, on fait un call, on fait une visio avec eux tous les soirs. Le département des directions humaines travaille avec eux pour justement les rassurer, montrer qu'on est présent et qu'on les soutient.
Et Total Energy et Engie ont été sommés par Bruno Le Maire de revoir leurs ambitions. Si demain, le ministre de l'économie vous appelle et vous demande d'arrêter vos activités en Russie, qu'est-ce que vous lui répondez?
Qu'on va arrêter. On va être solidaires. On est présent en Russie, c'est vrai aussi.
Cela
on est présent en Ukraine.
C'est un marché important.
Bien évidemment. On est plus présent en Ukraine qu'en Russie, mais on est présent en Russie. Mais contrairement à l'Ukraine, en Ukraine, on est présent pour développer des produits, pour exporter. En Russie, c'est pour le marché local. Donc on est dans la malterie pour accompagner nos clients qui sont des grands brasseurs internationaux. Et donc on travaille avec eux pour voir comment ils évoluent dans la situation, on va dire, du boycott potentiel qui certainement aura lieu demain. Donc on risque d'arrêter complètement nos activités. Donc, et de demander à nos salariés de rester chez eux, donc comme en Ukraine.
D'accord. Et quel impact cette crise a-t-elle sur l'économie de votre groupe ?
Alors nous, ça représente 20% du pôle agricole, c'est-à-dire 5% du pôle...
C'est pour l'Ukraine
du... Ouais, pour l'Ukraine plus Russie, 5 à 6%. Donc c'est un impact important, parce que 5 à 6% dans une entreprise, ça compte. Pour autant, ce n'est pas majeur, c'est-à-dire que le groupe Invo ne sera pas en difficulté économiquement, compte tenu de toutes ces activités qui sont assez diversifiées, y compris en retail, dont on parlera tout à l'heure.
Oui, on va en parler. Est-ce que vous pourriez relocaliser votre activité en France? Est-ce que vous l'envisagez?
Alors, on pourrait relocaliser, mais il y a tout un enjeu, c'est tout le discours qu'on porte aujourd'hui, c'est la réaction justement à cette crise grave russe et ukrainienne, c'est comment l'agriculture européenne peut réagir. Et donc là, comme en 2014, ça a été dit, je crois, dans votre émission, les Russes ont relancé leur agriculture sur le boycott pour devenir exportateur et devenir le premier exportateur, par exemple, de céréales au monde, devant nous. Nous, il faut qu'on soit en capacité d'utiliser cette crise comme une opportunité pour relancer l'agriculture européenne.
Et donc on peut relancer l'agriculture française.
C'est la demande qu'on fait. Absolument. Alors ça, c'est le vrai sujet. Là, on est dans l'actualité. C'est le discours qu'on porte aujourd'hui avec Julien de Normandie, notamment au niveau européen, de dire desserrer les taux de la politique agricole commune. C'est-à-dire ouvrir le potentiel de culture, le plein potentiel de culture, de grande culture à l'Europe. C'est-à-dire augmenter de 10% ou de 20% le potentiel de pouvoir cultiver des grandes cultures. Et nous allons répondre positivement en créant plus de valorisation aussi pour les agriculteurs français.
Oui.
Et donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que dans le cadre de la PAC, toutes les terres qui sont en jachère, il faut supprimer ce quota. Et ouvrir les terres en jachère, ça fait 20% de potentiel de production en Europe demain. Et donc, si je prends le blé, c'est 20 millions de tonnes ukrainiennes qui sont exportées, qui peuvent sortir du marché si les agriculteurs ukrainiens n'arrivent pas à semer au printemps leur future culture pour l'année prochaine. Et donc, nous, il faut qu'on soit en capacité de produire ces 20 millions de tonnes en Europe. Et donc, ça, c'est l'enjeu. Ouais, c'est un enjeu conséquent. Parce que nous sommes souverains.
Et ça, vous le saurez quand
Ça se décide ça se décide aujourd'hui. Et ça va se décider dans les jours qui viennent. Et c'est vraiment une décision collective européenne qui doit être prise. On est dans un temps important. C'est un temps de guerre. C'est comme après 1945. On va demander aux agriculteurs d'augmenter leur production. Ce qu'a fait le général de Gaulle. Ben, on est dans la même situation. Il faut qu'Emmanuel Macron fasse le message au niveau européen. Produisons plus et mieux pour nourrir la planète.
Par rapport à ce que vous dites, où on sent une solidarité chez vous, un engagement politique, etc., je crois savoir que l'entreprise est devenue une entreprise à mission en 2020. En deux mots là-dessus, c'est-à-dire cette transformation.
Pour nous, c'était assez naturel, puisque nos actionnaires sont des coopératives au départ, donc c'est une union de coopératives, donc on a des filiales, on a une holding de tête qui est une Vivo Group. Il était naturel que cette holding de tête devienne une entreprise à mission, puisque le monde coopératif, c'est le monde mutualiste, c'est le monde du bien commun, donc on doit se mobiliser collectivement pour nourrir la planète, pour trouver des solutions durables à l'alimentation de demain. Donc il était naturel qu'on devienne une entreprise à mission. Nous sommes devenus une entreprise à mission. Nous avons participé à la loi Pacte avec Bruno Le Maire en 2017, à la constitution justement de la charte de l'entreprise à mission. Nous étions des premiers intervenants à travailler dans le comité de pilotage.
D'accord.
Justement, vous étiez présent au salon de l'agriculture. C'est votre thème, la troisième révolution agricole.
Absolument.
Donc c'est dans cette démarche.
On peut démontrer aujourd'hui que grâce à l'innovation, grâce à la recherche, à la science, aux nouvelles technologies, on est en capacité de produire plus et mieux et durable. C'est-à-dire d'augmenter de 10% notre potentiel agricole et de le produire dans de meilleures conditions, c'est-à-dire prenant en compte, on va dire, l'environnement. Et on veut démontrer aussi que l'agriculture est une solution à la lutte contre le réchauffement climatique, c'est-à-dire que nous sommes en capacité de démontrer que les grandes cultures sont capables de capter du carbone dans les sols pour avoir un bilan positif. Ça peut être positif aussi pour le revenu de l'agriculteur, qui aura des crédits carbone à valoriser. Et pour la planète, ça sera forcément une réduction du développement du carbone dans l'atmosphère.
Vous êtes aujourd'hui un agriculteur commerçant aussi.
Donc, c'est normal.
Oui. mais ce que je veux dire par là, puisqu'on est dans Focus Retail, aujourd'hui, vous avez plusieurs réseaux de distribution.
Oui.
Qui, comme ça, lorsqu'on les voit un petit peu de l'extérieur, semblerait proposer à peu près les mêmes choses et à peu près aux mêmes clients. Comment vous les différenciez? Et je crois aussi pas mal de rappeler les enseignes que vous avez chez vous.
Alors, à l'origine, nous étions des distributeurs de produits pour les agriculteurs, ce qu'on appelle les LISA. Au départ, des magasins agricoles qui sont transformés en jardinerie progressivement. En gamme vert, vous connaissez l'enseigne.
Oui.
Donc voilà. Et donc, à partir de Gamme Vert, on a décidé d'être le leader du jardin en France. Donc, nous avons racheté Delbar,
oui,
Jardiland, et aujourd'hui, nous sommes le leader de la jardinerie en France et potentiellement en Espagne. Mais à partir de là, on s'est dit, finalement, les jardineries, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on développe d'autres catégories de produits pour équilibrer le modèle économique de la jardinerie qui est trop dépendant de la saison,
oui,
en réalité. Donc, bien évidemment, la nutrition pet food contribue favorablement à apporter un équilibre économique toute l'année. Mais on a trouvé l'opportunité de dire, finalement, les produits de terroir, les produits bio, ont besoin d'une grande vitrine. Et donc, on s'est dit que finalement, nous avons des mètres carrés disponibles pour nous diversifier et mettre en valeur les produits de nos terroirs. Donc,
d'accord,
on s'est lancé depuis 2014 dans la distribution de produits de terroir, de produits locaux, de produits bio. Et aujourd'hui, ça représente 10% du chiffre d'affaires des jardineries et on a envie d'augmenter le potentiel de vente de produits alimentaires jusqu'à 20-25% dans les prochaines années.
La pandémie a été profitable pour vous ?
Alors, oui,
comme,
alors ça n'a pas été simple au début, parce que moi, je vais vous dire, au départ, on n'était pas dans les magasins essentiels.
Oui.
C'est-à-dire qu'on a dû se battre pour devenir un magasin essentiel. Le bricolage était un magasin essentiel, mais pas les jardineries, ce qui a été vraiment une aberration. À l'époque, on a discuté avec le ministre de l'Agriculture, M. Guillaume, en disant, on ne comprend pas pourquoi les jardineries, en plein printemps, vous les fermez, alors que vous avez toute la chaîne, on va dire, de production horticole qui était là. On va mettre à la poubelle tout ça pour dire, finalement, on doit fermer parce que les jardineries ne sont pas des magasins essentiels. Donc, on s'est battu dérogation par dérogation pour devenir un magasin essentiel. Et finalement, c'est vrai que ça a été formidable parce qu'il y a une croissance très forte, vous connaissez les chiffres, sur les jardineries. Et aujourd'hui, c'est
et
vrai
qui
qu'on
est résiliente aujourd'hui, non ?
Absolument.
Oui, c'est ça
hyper dur. Voilà, absolument. C'est intéressant. C'est là qu'on a été chercher des nouveaux consommateurs qui ont compris que voilà, le faire soi-même à la maison, ça avait du sens, même en ville, sur les balcons,
oui,
ou même dans les campagnes, dans les maisons.
Et justement, on parle de potager, de jardinerie. Vous nous avez ramené des produits sur ce plateau. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Alors, dans l'esprit d'InVivo, on a d'abord poussé les start-up. Donc, on a toujours financé des start-up dans l'agriculture, mais aussi des salariés qui ont envie de créer leur boîte, quelque part. Et donc là, il s'agit d'une idée d'une personne qui travaillait dans InVivo Retail, donc dans Gamme Vert, et qui s'est dit, je pense que dans les cosmétiques durables, c'est-à-dire utiliser les ingrédients locaux, naturels, pour faire des produits cosmétiques.
La betterave, la chicorée.
Et donc, on a lancé, effectivement, Cultive. Elle a lancé Cultive, et aujourd'hui, ça, on va dire que ça cartonne. Et on est content de promouvoir cette marque dans tous nos magasins. Mais au-delà, je crois que Monoprix a référencé cette gamme. Et on est vraiment dans des nouveaux moments de consommation autour des cosmétiques qui valorisent les productions régionales.
Merci Thierry Blandinaire. Je rappelle que vous êtes directeur général d'InVivo. Merci d'être venu sur ce plateau. Et nous allons continuer tout de suite à parler potager dans le chiffre de la semaine.
Focus Retail, le chiffre de la semaine.
Nous allons laisser de côté la géopolitique pour aborder un sujet plus léger. Raphaël, les joies du potager. Et aujourd'hui, les Français n'ont plus besoin d'avoir une maison à la campagne pour cultiver leurs légumes. Ils les font pousser dans leur appartement.
Et c'est le chiffre de la semaine. Le chiffre de la semaine, c'est 89. Donc on pourrait dire 90% des citadins qui souhaitent avoir un potager à la maison, voulant dire dans leur appartement, dans la cité, dans la ville de Détroit, etc.
Qui habite juste en dessous.
Absolument. Et du coup, ce concept de potager à la maison, bah forcément que ça crée une offre, ça crée des services et ça crée quelque chose de nouveau aujourd'hui sur le marché et dont les clients et les consommateurs sur lesquels ils ont une vraie appétence. Et ça génère aussi des nouveaux produits, des produits même un peu tech, du tech avec des petites lumières qui font pousser les choses, des cultures un peu particulières. Alors c'est bien sûr de base les herbes aromatiques, mais c'est aussi des champignons qui poussent très vite, c'est des petites tomates, c'est des choses comme ça qu'on peut faire chez soi.
Justement.
Et il y a un véritable engouement là-dessus.
Et lorsqu'on veut faire pousser ces légumes, ces champignons dans notre appartement, où est-ce qu'on peut aller ?
Eh bien, on va dans une pépite qui existe aujourd'hui à Paris et qui s'appelle Alma Grown in Town. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un magasin dans le 11e, un magasin associé à un e-shop très expérientiel, à l'intérieur duquel on va avoir tout ce qu'il faut pour faire à la fois de la petite agriculture dans son appartement, mais aussi sur son petit balcon, sur sa petite terrasse, quand on a la chance d'en avoir une, mais on n'a pas toujours cette chance. Mais du coup, beaucoup de citadins aujourd'hui s'y pressent, et c'est carrément un concept store à l'intérieur duquel on peut avoir des ateliers, on peut avoir des visites programmées sur des expériences particulières.
Et si puis, on n'a pas la main verte.
Absolument.
On peut y aller tout de même. Si on n'a pas la main verte.
On peut y aller si on n'a pas la main verte. Alors après, justement, les ateliers et les formations sont là pour y aider.
Et est-ce que vous avez déjà essayé de faire pousser des lardons dans votre jardin?
Pas encore.
En tout cas, vous devriez essayer. Des lardons aux plantes, ça existe. Ça s'appelle La Vie. On en parle tout de suite dans le pitch de la start-up.
Focus Retail, le pitch.
Sans le savoir, vous dégusterez peut-être un jour une tarte flambée ou encore des pâtes carbonara aux lardons végétaux. C'est votre idée, Nicolas Schweitzer. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur de La Vie. C'est la première fois que vous êtes rendu au Salon de l'Agriculture. Comment avez-vous été accueilli par le monde agricole?
Eh bien, franchement, c'est incroyable. On ne s'y attendait pas du tout, mais on a été accueillis à bras ouverts et par les visiteurs et aussi par les exposants. On a échangé avec beaucoup d'éleveurs qui, parfois, pouvaient être un peu sceptiques initialement et qui comprennent la démarche, qui nous soutiennent. Donc, non, c'est génial.
Et justement, des agriculteurs sceptiques et les consommateurs qui sont venus sur place, comment, quelle a été leur réaction?
Bah, il y a toujours ce moment magique de la dégustation où on voit les visages s'illuminer et dire ah oui, quand même, c'est incroyable, quoi. C'est se dire que c'est des plantes, c'est complètement fou.
Yeux bandés, qu'est-ce que ça donne les tests?
Eh bien, c'est ça qui est incroyable, c'est que lorsqu'on ne dit rien aux consommateurs, ils ont tendance à préférer notre bacon aujourd'hui au bacon de porc.
Ah oui, carrément.
Bacon végétal.
D'accord. Et alors, vous sentez un énorme engouement vis-à-vis de ce produit, même s'il a un petit côté fake, non?
Ah bah, c'est clairement un substitut, donc l'objectif, c'est de reproduire tout ce qu'on aime dans la viande, avec uniquement des plantes. Mais je pense que là où on est...
Uniquement des plantes, même pas de colorant?
Alors,
pour colorer un petit peu à la couleur du lardon, etc.
Si, tout à fait. On utilise de la peau de tomate et de la peau de radis.
D'accord, du naturel.
Exactement.
Ok.
Okay. Donc, cela représente 3 ans de recherche et développement. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur cette composition?
Bien sûr.
C'est quoi comme plante?
En fait, nous, on a la conviction que ce qui rend la viande si délicieuse, la viande animale, c'est le gras qui va venir infuser, qui va apporter toute cette intensité, cette gourmandise dans la viande et qui est très difficile à reproduire en végétal. Et donc, on a concentré tous nos efforts là-dessus. On a développé un gras végétal qui s'y reproduit vraiment le gras animal après 5000 recherches et 5000 tests, pardon, et 3 ans de recherche. Et aujourd'hui, on est les seuls au monde à avoir un gras qui va cuire, qui va infuser, qui
va apporter. Un gras végétal solide.
Voilà, exactement. Et donc, la recette, c'est donc ce gras qui est de l'eau et de l'huile de tournesol qu'on mélange.
Oui.
Et la partie maigre qui est donc du soja, du sel, des colorants et arômes naturels.
À l'origine de l'idée, c'est quoi? Vous étiez un fou dingue de lardons ou quoi?
C'est plutôt votre côté militant.
Voilà, oui, non, et puis c'est aussi mon associé qui a une expertise reconnue mondialement sur les émulsions.
D'accord.
Et qui était convaincu qu'on pourrait apporter cette touche de gourmandise aux alternatives végétales en créant ce gras végétal qui va reproduire le gras animal.
D'accord.
Moi, j'ai tout de même une question. Est-ce que c'est aussi gras que des lardons classiques?
Alors, il y a 11 fois moins de graisse saturée que dans les lardons de porc. On a autant de protéines, 33% moins de calories. Et c'est riche en fibres.
Quand même.
Et le prix par rapport à des vrais lardons?
On est à, alors, en fonction des enseignes,
oui,
entre 2,69 et 2,89.
Ce qui donne par rapport aux vrais lardons?
C'est à peu près équivalent à des lardons de porc bio.
D'accord. Ouais. Ok. C'est-à-dire le haut de gamme des lardons.
Oui, voilà. Tout à fait.
Ok.
On est très abordable par rapport aux alternatives aux simili-carnés sur le marché aujourd'hui.
Oui.
Mais on est effectivement plutôt premium par rapport aux lardons de porc.
Ok. Le marché est énorme.
Le marché est significatif.
Significatif. Voilà. Oh, la modestie.
Aujourd'hui, vous êtes référencé chez Carrefour. Est-ce que vous allez développer d'autres canaux de distribution? Être présent chez d'autres enseignes?
Tout à fait. On vient d'ouvrir avec Intermarché en Île-de-France, avec Leclerc dans l'Ouest, et il y a beaucoup d'annonces qui arrivent avec des partenaires distributeurs.
Vous concoctez des recettes avec les restaurants?
Exactement. Donc on travaille, on a des chefs qui travaillent avec nous pour concevoir des recettes pour la restauration. Aujourd'hui, on travaille avec, par exemple, Pokawa, qui est une chaîne de Pokéball assez connue, Hank, qui est une chaîne de burgers. On travaille avec Taster, Not So Dark, etc.
Ok. La vie, c'est votre marque. Elle était disponible ?
C'est une très bonne question.
Je me suis posé la même question.
Oui. Eh bien, oui. Donc, oui, voilà. Donc, on a pu déposer la marque. Oui. On a pu déposer la marque. Alors, c'est sur les substituts carnets.
Oui.
Mais oui, on a pu déposer la marque.
Formidable.
À l'échelle mondiale.
Ok. Bon.
En janvier dernier, vous avez levé 25 millions d'euros en Série A. À quoi vont servir ces fonds ?
Principalement à, d'une part, notre développement international, et puis surtout à continuer de travailler pour concevoir des recettes toujours plus sophistiquées, donc qui vont vraiment permettre de retrouver tout ce qu'on adore dans la viande avec uniquement des plantes.
Vous allez étendre votre gamme aussi. Quel est le prochain produit ? Vous pouvez nous en parler ?
Je ne peux pas, malheureusement.
Pas encore ? Parce qu'on voit que vous avez des soutiens de poids, même des acteurs, une actrice, Nathalie Portman, ça c'est incroyable.
Oui. On a eu beaucoup de chance, en fait, effectivement, que ce soit Nathalie Portman ou plusieurs dirigeants des grandes licornes européennes comme Blablacar, Backmarket, Vinted, Oatly, qui sont tous des acteurs très engagés pour le climat. Il y a eu un vrai ralliement autour du produit et du projet. Je pense que c'est vraiment le moment de la dégustation qui est un peu magique.
Vous êtes devenu le pro mondial du porc sans porc.
Voilà.
Vous êtes en train de nous dire que Nathalie Portman a dégusté les lardons.
Bien sûr.
A goûté.
Bien sûr. Elle a goûté dans sa cuisine avec sa famille et a trouvé ça bluffant. Et c'est suite à cette dégustation qu'elle nous a appelé et qu'elle a dit je veux vous soutenir, c'est incroyable ce que vous faites.
Bon, merci beaucoup Nicolas Schweitzer. Je rappelle que vous êtes cofondateur de La Vie. Merci Raphaël Palti d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'est la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site et l'application BFM Business. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. À très vite.
Focus Retail. La distribution de demain s'invente aujourd'hui.